Je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans et je reviens d'un voyage à pied de 33 mois avec mon âne Marius, un Tour de France qui a commencé le 23 mars 2016 et qui s'est terminé fin novembre 2018.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Stéphane, qui nous raconte son tour de France à pied, accompagné d'un âne. Avec lui, on a parlé d'histoire de France, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de changement de vie.
J'ai bourlingué à travers le monde. Ça faisait 10 ans à peu près que je voyageais avec mon âne et j'avais envie d'un voyage plus long, plus lent, plus loin, vivre le nomadisme, une expérience de liberté où on n'a plus rien et on vit au jour le jour, juste l'aventure, mon âne et moi. On est parti du sud de la Drôme, un petit village qui s'appelle Beauvoisin, près de Buis-les-Baronnies. Et on était accompagné de Céline, qui est une amie, et sa mule Symphonie, et nos deux chiens, Baya et Cali. Céline et moi ne nous connaissions pas un an avant ce départ. On s'est rencontrés entre guillemets sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle avait émis l'intention de partir avec une mule dans un an. Et le miracle du net, c'est on a commencé à discuter et à force de discussions, d'échanges, on s'est dit ben pourquoi pas faire ce voyage ensemble. On savait pas au début si on partait ensemble, si on se retrouvait quelque part, si voilà, il y avait rien qui était vraiment fixé. Les choses se sont faites au fur et à mesure. Céline n'avait pas de mule. Donc elle a fait des recherches, elle en a acheté une dans les Pyrénées, et puis on a ramené Symphonie, Marius qui était à l'époque en Ardèche, puisque je venais de vendre ma maison, on l'a ramené dans la Drôme pour s'installer chez des amis qui nous offraient un lieu, le temps de finir les préparatifs du voyage. Surtout il y avait un terrain pour nos animaux, et voilà, on est resté comme ça ensemble un mois pour finaliser le voyage. Et on est parti, le 23 mars, dans cette grande aventure. Je vais faire un petit flashback sur l'origine un peu de ce voyage. Alors Marius, je l'ai eu quand il avait 10 mois. C'est un ami qui me l'a offert. J'avais une maison en pleine campagne dans le sud de la Drôme. Et du terrain, des chèvres. Et bah, cet ami en fait avait deux ânesses et un âne, et les deux femelles devaient mettre bas à quelques jours d'intervalle, et la première a tué son petit. Elle s'est acharnée dessus, mon pote a voulu les séparer, et elle a réussi à le retrouver et à l'achever. Donc il me téléphone, il m'explique, et puis il me dit bah, moi, je suis écœuré, je vais tout vendre. Voilà, je sais pas. Enfin, c'était horrible quoi, pour lui, cette expérience. Et je suis, bah écoute, le petit qui arrive au monde, enfin, quand il est là, tu le gardes, je l'achète. Et moi, j'avais du terrain, enfin, tu vois. Et Marius est né. Donc, je l'ai vu quand il avait quelques semaines. Puis je l'ai vu grandir. Puis mon pote me l'a amené, pour mon anniversaire, il me l'a amené. Tout en rubané, voilà, dans un van, et c'était chouette. Enfin, c'était voilà. Marius est arrivé comme ça à la maison. J'imaginais pas à l'époque que son arrivée allait vraiment changer ma vie. Moi, j'étais pas dans le voyage du tout, j'étais pas non plus randonneur. Moi, marcher, je voyais pas trop d'intérêt, surtout marcher avec un sac à dos. Et puis, il arrive que la vie te mette devant des choix, te pousse. La vie m'a poussé à partir. J'étais dans une période un peu compliquée. À vrai dire, j'étais en dépression. Et pour moi, la seule façon de m'en sortir, de pas continuer à sombrer et voire même de faire une connerie, c'était de partir avec mon âne et d'aller trouver des réponses sur les chemins. Et je suis parti 3 semaines en août 2007 et c'était une expérience magique, mystique, énorme. C'est le voyage qui a changé ma vie, vraiment. Et si mon âne n'avait pas été là, probablement j'aurais pas eu l'idée de partir avec lui, en tout cas partir marcher comme ça. Et certains font Compostelle, moi je suis parti autour de chez moi et c'était magique, vraiment. Au retour de ce voyage, j'ai décidé de poursuivre le chemin. J'ai rencontré Brigitte, qui est une Belge, qui était en vacances chez des amis dans un petit village. Et en fait, elle m'a accompagné d'abord pour une journée parce que sa fille voulait marcher avec mon âne. Et en fait, elle a marché avec moi pendant 9 jours. Donc elle est partie avec rien, juste ce qu'elle avait sur elle, basket, jean, t-shirt. Puis au fur et à mesure du voyage, les gens lui ont donné une paire de chaussures de rando, un duvet. Elle a acheté une brosse à dents, enfin voilà, puis elle a marché avec moi pendant 9 jours. Sa fille, qui était venue, donc qui a marché avec nous pendant 2 jours, a été récupérée par ses amis. Et Brigitte a un peu des dons de voyance, elle est un peu médium. Et la première soirée qu'on a passée ensemble chez ses amis était particulière. Et les réponses que moi j'avais trouvées en chemin, elle me les a redonnées comme une confirmation de ce pourquoi j'étais là, quoi, sans me connaître. Et quand on est rentré, sur le chemin du retour, elle m'a dit, tu sais, ce voyage, vu ce qu'il t'a apporté, tu pourrais le renouveler chaque année et amener avec toi des gens qui sont en difficulté, qui sont pas bien dans leur peau, qui ont des problèmes. Voilà. Et peut-être que, comme toi, ils trouveraient un sens à leur vie. Et moi, je suis pas thérapeute, je suis pas accompagnateur, je saurais pas faire. Du coup, l'idée qui m'est venue, c'est de poursuivre les voyages en récoltant des fonds pour des enfants malades et ou handicapés. C'est comme ça que l'année suivante, je suis reparti avec Marius en distribuant des petites cartes et en essayant de récolter des fonds pour des associations locales qui aident des enfants malades. Et la magie de ce premier voyage aussi, c'est que quand on est rentré, au moment où on allait franchir la clôture de mon terrain, il y a une énorme étoile filante qui a traversé le ciel, qui est venue derrière nous et qui a filé devant nous. C'était juste énorme. Voilà, c'était un peu un signe, peut-être la direction à prendre pour les prochains voyages. Donc voilà comment est né le Marius Tour, parce que c'est comme ça que j'appelais mes voyages Marius Tour. Et c'est de chez Brigitte qu'on est parti à Beauvoisin, parce que Brigitte... Après ce voyage qui a été aussi une thérapie pour elle, entre guillemets, ça lui a permis de comprendre plein de choses. Quand quand on est en voyage comme ça, qu'on marche, qu'on discute, moi j'ai appris plein de choses à ses côtés, mais elle a appris aussi plein de choses dans nos discussions et aussi dans les rencontres qu'on a faites au fil des jours. Elle s'est dit qu'elle reviendrait dans la Drôme pour y habiter. Et 8-9 ans après, elle s'est installée dans la Drôme, donc à Beauvoisin. Et c'est elle qui nous a accueillis pour ce voyage de 3 ans. La boucle était bouclée. Et elle m'avait dit qu'il y aurait ce grand voyage. Donc avec Céline, on est parti par un beau jour de mars. Et on a fait le tour de France. On est passé par l'Isère. Alors... On a suivi le chemin des Huguenots, le chemin que les protestants empruntaient pour fuir le royaume de France après la révocation de l'édit de Nantes pour se réfugier en Suisse. Donc on a suivi ce chemin jusqu'à Genève. Et Céline est suisse. Elle avait envie de traverser son pays pour voir des amis, enfin sa famille, et c'était cool de pouvoir faire ça. Et moi aussi j'avais envie de traverser mon village d'enfance avec mon âne au début du voyage, ce qu'on a fait, d'aller dans des lieux qu'on connaît, et le fait d'y aller avec un sac à dos, notre petite caravane d'utopiste. C'était chouette de le faire. Et donc on a été en Suisse. On a traversé une partie de la Suisse. Après on a été dans le Jura, le Doubs, territoire de Belfort, l'Alsace. On a traversé Strasbourg. On est passé par les Vosges du Nord. Et là, Céline a perdu sa chienne, Cali, d'une leptospirose. Malgré les soins d'un vétérinaire, on a rien pu faire. Elle est morte dans la petite Suisse. C'était le lieu de l'endroit où on était. On était chez un garde forestier qui nous a aidés, qui a amené Céline notamment chez le vétérinaire. On a pu enterrer Cali dans la forêt. Et voilà, aujourd'hui, elle est dans cette forêt, la petite Suisse. On a continué notre route pleine ouest, en tout cas jusqu'en Moselle. Là, on s'est arrêté pour l'hiver. En fait, on a été hébergés chez des gens qui nous suivaient sur notre site et sur Facebook. Ils n'avaient pas vraiment envie qu'on parte. Et à force de rester, ben on a été un peu pris par l'hiver et on est reparti fin février. Ensuite, on a été chez une amie à Metz. On a traversé Verdun et à Verdun, c'est ma chienne Baya qui était fatiguée. C'est une vieille chienne, un croisé bosseron. Elle subissait un peu le match. Elle avait froid. Il faisait humide, on était encore un peu en hiver, enfin c'était en Moselle, du coup les journées étaient pas très très drôles et elle arrivait pas à se réchauffer, du coup mon ami est venu la chercher et elle est toujours là-bas, enfin elle vieillit tranquillement. Et la caravane d'Utopiste donc s'est réduite, on était plus que Céline, moi et nos deux équidés. On a été dans l'Oise, on est monté en baie de Somme. Et puis là, c'est Symphony qui commençait à stresser, qui était pas très bien, mais en même temps, Céline aussi fatiguait. On n'avait pas les mêmes objectifs de voyage. Et moi, j'étais parti pour faire un tour de France. Céline, elle partait pour un voyage sans vraiment connaître la destination, sans fixer de date limite. Et moi, j'étais dans mon voyage nomade avec mon blog, les vidéos qui nous prenaient du temps, mais qui faisaient aussi pour moi partie du voyage. On était au niveau des journées. Moi, j'étais pas trop pressé pour partir le matin. Enfin, on n'était plus sur les mêmes attentes, les mêmes objectifs. Et puis bon, il y avait la fatigue. Symphonie devait ressentir tout ça et elle était plus vraiment en sécurité. Elle commençait à avoir un comportement. Par exemple, quand il y avait des vaches, elle en avait peur. On a failli avoir un gros problème à un moment donné, avant d'arriver en baie de Somme, où elle a tout bazardé, ce qu'elle avait sur le dos. Elle est partie en trombe, elle a failli vraiment se faire mal. Et elle a arraché les sacoches. Enfin bref, elle a eu très peur de deux troupeaux de vaches qu'il y avait de chaque côté du chemin. Et elle est partie au triple galop pour rejoindre Marius, parce qu'on était devant. Et ouais, elle aurait pu se faire très mal. Enfin voilà, donc on a été obligé de s'arrêter en baie de Somme une dizaine de jours pour faire réparer les sacoches. Voilà, c'était beaucoup de tension. Céline, elle n'y arrivait plus. Et à Dieppe, on s'est retrouvé face à une dizaine de motos dans une petite rue. Moi, j'étais devant avec Marius. Il y a un motard qui a fait tourner le moteur un peu fort. Marius n'a pas bougé. Symphonie est partie en cacahuète. D'autant que derrière, il arrivait des gamins en criant « Ah, il y a des ânes, il y a des ânes !» Voilà, Symphonie est partie, pas en tronc, mais voilà, elle était complètement affolée. Céline a essayé de la récupérer, elle s'est fait un claquage au mollet. Symphonie s'est donné un coup de sabot sur l'intérieur. Le lendemain matin, l'intérieur était gonflé, elle avait doublé de volume. Donc Céline s'est dit « Bah, j'arrête, quoi. » Et puis je reviens selon comment se passent les choses et voilà, fin de l'aventure pour Céline. Moi, je me suis demandé si le voyage, du coup, avait du sens, si je devais continuer le voyage, si je devais m'arrêter, si... Et puis finalement, j'ai continué, enfin, en espérant que Céline revienne, parce que, voilà, on partage pas 15 mois de voyage sans être attaché à quelqu'un, enfin, sans s'attacher à quelqu'un. Et ça a été dur, ouais, pour les deux, hein, de se retrouver arrachés elle du voyage, moi d'elle, ça a été un peu compliqué quoi. Et puis j'ai continué, j'ai fait la Normandie, j'étais en Bretagne, je suis resté 9 mois en Bretagne. J'ai passé l'hiver sur l'hiver 2017-2018 sur la presqu'île de Crozon. Je me suis coincé un nerf entre deux cervicales, ce qui m'a coincé là-bas. Je suis reparti au mois de février. Je suis descendu jusqu'en Charente, en passant par Marais-Poitevin. Je suis passé par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est un endroit où je voulais vraiment aller. En Bretagne, je suis passé par Brocéliande. Là aussi, ça faisait partie des lieux que je voulais voir. Et depuis la Charente, après Charente-Maritime. Après, je suis rentré plus dans les terres, direction le Cantal. Et j'ai tourné un peu après les monts du Cantal. J'étais dans le Lot, au Rocamadour. Je suis revenu dans l'Aveyron. Et puis finalement, mon voyage s'est terminé le 27 novembre 2018 en Lozère. Voilà, une très belle aventure.
Merci beaucoup pour ce récit.
De rien, merci à toi.
Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Bah parce que c'est le voyage qui a marqué ma vie. Enfin, quand on part comme ça pendant 3 ans, je pense que on en fait peu dans sa vie comme ça. C'est le voyage de ma vie, je dirais. Ouais.
Comment ça se passait la rencontre avec des gens ? J'imagine que c'est assez peu commun, au final, de voir la caravane des utopistes, comme tu l'appelais.
En fait, c'est comme ça que nous appelaient les gens sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. Comme ça que, voilà, la caravane d'utopistes ou des utopistes. Qu'on a gardé un petit moment jusqu'à ce que je finisse tout seul, parce que la caravane tout seul, c'est... Comment les gens nous percevaient ? L'avantage d'avoir un âne ou une mule, donc ce sont de véritables passeports. Les gens viennent nous voir, nous posent des questions, puis vous cherchez un endroit pour ce soir, ça se faisait assez facilement. Et les gens sont curieux de savoir pourquoi on fait ça, où on va, et puis quand plus les jours passent, plus les semaines passent, et plus les gens sont... Je regarde les yeux écarquillés quand je leur dis ça fait 2 ans que je suis parti. 2 ans. Et avec le maman ? Bah oui. Enfin, pourquoi pas ? Enfin, des petites réactions comme ça. Et non, c'est. On est super bien accueillis.
Du coup, comment ça se passait pour dormir ? Certains gens vous accueillaient s'ils avaient un terrain. C'était beaucoup de camping. C'était quoi au niveau logistique ? À quoi ça ressemblait un voyage comme ça ?
Alors d'abord, le matin, quand on partait, on savait pas où on allait se poser le soir. Moi, je faisais mes itinéraires, tous les 300, 400 kilomètres. Parce que quand on est avec un âne, on peut pas trop improviser. Bon, j'improvisais beaucoup, mais en tout cas, sur le chemin, puis j'avais pas envie de me prendre du goudron sans arrêt. Et l'idée, c'était aussi de faire des sentiers, des chemins. Et il fallait quand même vérifier sur une carte, s'il y a pas de danger, surtout quand on est en zone de montagne, de pas se retrouver sur des chemins, dangereux pour un équidé batté. Je préparais ça tous les mois. Je faisais un tronçon. Je ne savais pas le soir où j'allais dormir. En général, j'étais accueilli chez l'habitant. Il y a des endroits où j'étais plus accueilli que d'autres. Normandie, surtout Bretagne, quasiment tous les soirs, j'étais chez quelqu'un. Cantal, Corrèze, Dordogne, c'était un peu plus compliqué.
Pourquoi ?
Les gens un peu plus montagnards entre guillemets, plus craintifs peut-être, peur de l'étranger. Ce qui veut pas dire qu'on n'ait pas de regard bienveillant. J'avais remarqué que entre la Charente jusqu'au Cantal, les gens qui nous ont accueillis, quand j'ai accueilli, c'est les gens qui nous ont offert le couvert, qui nous ont proposé une douche, qui nous ont... pas ceux qui nous offraient juste le terrain, vraiment ceux qui allaient au-delà de ça, ils n'étaient pas de la région. C'est des gens qui avaient... Ou alors des gens qui avaient voyagé, qui avaient fait Compostelle, ou des gens qui avaient marché, qui savaient ce qu'était le voyage. Mais sinon, c'était que des personnes qui venaient de s'installer, ou qui s'étaient installées dans la région.
Tu mentionnais alors les Huguenots, tu mentionnais Verdun.
Est-ce que tu as découvert un petit peu l'histoire de France à travers de ce voyage?
Ah oui, et c'est important pour moi de me documenter sur les lieux que je traverse. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut savoir où on est, ce qu'on fait, les lieux qu'on traverse. Verdun, toute cette zone Moselle, l'Alsace, c'est des territoires qui sont marqués par les conflits, par la guerre, et on a vraiment ressenti ça. Alors, surtout quand on a traversé Verdun. Et puis quand on passe même en campagne, qu'il y a des monuments partout, c'était assez, c'est assez prenant. Enfin, on ressent ça. Il y a des énergies qui sont pas toujours bonnes. Mais oui, puis on s'arrête dans des villages, on passe devant un office de tourisme, on prend une doc. Et moi, dans mes récits sur le blog, il y avait beaucoup d'histoires parce que c'est ce qui m'intéresse. Et si je veux intéresser les gens, c'est pas en racontant qu'on s'est levé à 9h, qu'on est parti à 10 et qu'on s'est arrêté chez un couple à 20h, quoi. Enfin, il fallait. J'aime bien quand il y a un peu plus que ça et j'aime bien m'intéresser à l'histoire des lieux qu'on traverse. Les chemins des Huguenots, je connaissais le chemin. Enfin, on a pu rencontrer des gens qui ont recréé ce chemin, des historiens, une pasteur, des descendants de protestants qui avaient fui la France. Historiquement, c'était une belle histoire, ce chemin.
Vous avez, je crois, traversé quelques grandes villes. Tu mentionnais ne serait-ce que Strasbourg et Dieppe. À quel point c'était différent et à quel point les gens réagissaient différemment? Et puis même, est-ce que... je t'ai posé cette question en micro. Est-ce que c'est même légal maintenant d'emmener un âne, un équidé, bien sûr sur des routes qui sont réservées aux voitures, aux piétons?
C'est légal. En même temps, on ne s'est pas trop posé la question de savoir si on allait nous dire quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes villes pour que ce soit illégal. Dans un petit village ardéchois qui s'appelle Vallon-Pont d'Arc, les équidés n'ont pas le droit de rentrer. Voilà, il y a un arrêté municipal qui interdit aux équidés de traverser le centre du village.
Vous l'avez fait quand même ?
Bien sûr.
Vive dangereusement tout ça.
C'est ça. J'aime bien peut-être provoquer un peu et je comprends pas bien. Ville touristique, et il faut que ce soit propre. Des fois que l'âne fasse du crottin, enfin, on sait jamais. Bref. Chambéry, ça a été assez simple. En fait, la difficulté dans une ville, c'est de pouvoir y rentrer et d'en sortir. Une fois qu'on est dedans, en général, c'est plutôt facile. Mais on nous a rien dit. Strasbourg, on est arrivé par... on était avec des pèlerins, l'association des pèlerins de Saint-Jacques, qui nous a permis de rentrer dans Strasbourg. On est arrivé dans la cathédrale. Et d'ailleurs, la personne qui nous a accueillis là-bas m'avait dit... mais tu passeras jamais à Strasbourg, en plus avec Vigipirate. Ils vont te fouiller toutes les sacoches de Marius et Symphonie, ça va pas être possible. Puis en fait, on est arrivé là-bas, tous les touristes nous ont pris en photo, les militaires souriaient, enfin, ça s'est super bien passé. Puis après, on est parti, on a retrouvé facilement le canal qui nous amenait au nord de l'Alsace, et on est passé devant le Parlement européen, cet immense bâtiment circulaire. C'était bizarre, on était tout petit par rapport à... Et puis voilà, après on a retrouvé le canal et on a filé. On s'est même pas rendu compte qu'on rentrait dans Strasbourg. C'était étonnant. Reims, ça a été un peu pareil pour rentrer. Il y a un canal qui nous amène à l'entrée de Reims, on va dire. Là, il y a le tram, donc ça a été. Fallait jongler. Symphonie avait un peu peur. Faut pas se mettre sous une voie de chemin de fer, enfin sous un pont de SNCF quand on regarde les cartes, ce qui nous est arrivé. Bêtement, on s'est mis à regarder la carte et il y a un TGV qui est passé et là les Milan sont partis en trombe. A répondu à l'appel de Céline quand elle a sifflé, elle s'est arrêtée au bout d'un moment et Marius, je le tenais. Donc après il a c'est moins crainte. Enfin, l'âne va quand il y a un danger, il sait courir, c'est mort pour lui, donc il va faire quelques enjambées, on va dire, et puis il va s'arrêter, il va regarder autour de lui, enfin, où est le danger, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. La mule, c'est comme le cheval, ça va partir en courant. Bref, ça c'est pour anecdote. Pour quitter Reims après avoir fait la photo dans la cathédrale, forcément, ça a été plus difficile, on s'est retrouvé à devoir, on a un peu galéré, beaucoup de circulation, mais bon, voilà, ça s'est fait. Dieppe aussi, c'est pas une grande ville, mais ouais, il y a beaucoup de circulation et les rues sont en sens unique. Ça dépend des configurations des lieux. Et voilà. Nantes, j'ai évité Nantes, j'ai pris le bac. On s'est retrouvé en Vendée après. Voilà.
Tu mentionnais également la ZAD de ouais. Notre-Dame-des-Landes, qui est pas loin de Nantes justement. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton expérience, comment ça s'est passé là-bas et combien de temps tu y es resté?
J'avais très envie de passer par la ZAD, ce lieu où vivent encore pas mal d'utopistes qui veulent un autre monde, qui réfléchissent à d'autres systèmes. J'y suis passé après la deuxième grosse vague d'expulsion. En fait, il y avait quelqu'un qui me suivait, qui vivait dans un lieu qui s'appelle la Noé Verte. C'est le dernier lieu qui a été pris par les zadistes à l'est de la ZAD, là où devaient être construites les pistes, enfin, c'était en bout de piste de l'aéroport. Et j'ai vraiment adoré ce lieu. J'y suis resté une dizaine de jours. J'ai traversé la ZAD d'ouest en est. J'avais pu découvrir certains lieux grâce à des zadistes voilà, qui m'y ont amené. On a passé quelques soirées et j'ai pu rencontrer des gens qui vivaient là. Et quand je l'ai fait à pied, quand j'ai découvert tous ces lieux qui avaient été détruits par les forces de l'ordre quelques semaines avant, ça sentait encore les fumées, le cramé, il y avait par terre plein de bouts de verre, des planches, des bouts de plastique, des lacrymos, enfin, j'en ai pleuré. De se dire que ce lieu où vivaient des gens qui avaient envie d'un autre monde se sont fait dégager manu militari. Et en partant, quand j'ai retrouvé la départementale, j'ai croisé 5 ou 6 véhicules de la gendarmerie mobile qui venaient... pas pour nouvelles expulsions, mais pour assurer la... Enfin, pour montrer qu'ils étaient là. Ils me faisaient signe, ils me disaient bonjour, et je trouvais ça tellement en décalage, me dire que... Qu'est-ce que tu fais dans ton camion, toi? Tu me dis bonjour parce que tu me vois avec un âne, mais qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins que ces mecs que tu as dégagés dans quelques semaines? Ouais, c'était bizarre ce sentiment que j'ai eu en quittant la ZAD.
Tu mentionnais à plusieurs reprises que tu faisais des vidéos, que tu avais un blog. De quelle manière, du coup, tu as documenté ce voyage et, de manière générale, comment tu racontes tes voyages?
En fait, on a fait beaucoup d'interviews pendant ce voyage. D'abord avec Céline, puis tout seul. En fait, quand je rencontrais quelqu'un ou un couple qui était dans le changement de vie ou qui faisait quelque chose de particulier ou qui avait des ânes, parce que j'ai fait aussi j'ai aussi pris l'angle des gens qui avaient un âne et qui avaient soit voyagé, soit qui faisaient du dressage, soit du coup je sortais ma caméra, mes micros, et puis on faisait une interview et on faisait avec Céline toutes les semaines, on sortait un vlog, donc une vidéo d'une dizaine de minutes sur à chaque fois une semaine ou quelques jours de voyage. Et on a fait aussi quelques vidéos sur quel matériel prendre quand on voyage avec un âne, qu'est-ce qu'on a dans nos sacoches, comment on s'alimente, ce genre de vidéos. Et puis tous les jours on essayait d'alimenter le blog en racontant notre journée, qu'on ressentait, comment on vivait le voyage, voilà.
Bon, j'ai compris que voilà, chaque année t'avais le Marius Tour un petit peu. Quels sont tes prochains projets, ou que ça soit de voyage ou autre?
Alors en fait, je reviens avec plein de projets. Alors, j'étais parti déjà en ayant quelques projets dans les sacoches, et je crois qu'il me faudrait 3-4 vies pour mettre en place tous les projets que j'ai. Bah, j'ai le projet de monter le film de ce voyage, je pense d'ici la fin de l'année, d'écrire un livre. Il y a une pièce de théâtre aussi qui est dans les cartons, avec une amie que j'ai rencontrée en voyage en Bretagne, Audrey, qui est metteuse en scène. En fait, je l'ai rencontré dans un petit village. Je vais passer l'anecdote, mais voilà, je l'ai rencontré là. Puis elle m'a expliqué qu'elle faisait du théâtre, qu'elle était metteuse en scène. Et je dis, ah, mais c'est génial, parce que moi, j'ai pour projet de mettre ce voyage sur les planches. Et elle me dit, ah, mais c'est cool. Et bien, en fait, elle a écrit le voyage, il est déjà prêt. Après, il y a des arrangements, il y a des choses à revoir, mais elle est venue avec moi plusieurs fois sur quelques jours pour s'imprégner du voyage. Et elle écrit la pièce avec notamment mes récits. C'est un dialogue entre la route et moi. Voilà. Donc il y a ça aussi. J'ai des projets de documentaire, notamment sur le chemin des Huguenots. D'ailleurs, sur les premiers vlogs, on a pu interroger ce que je disais tout à l'heure, les historiens qu'on a rencontrés, la pasteur. Le gros projet qui me tient vraiment à cœur en ce moment, c'est un projet de web radio que j'ai lancé au mois de janvier. Et ça, c'est concret, en tout cas, de tous les projets que j'ai en carton.
Tu peux nous en dire plus ?
Oui, c'est une web radio qui s'appelle Allô la planète. Allô la planète, c'était le nom de l'émission qui passait jadis sur France Inter. Une émission qui a duré 10 ans à peu près et qui est ensuite après France Inter a été diffusée sur le site de Chapka Assurance. C'est Eric Lange qui était à l'origine de cette émission, qui l'a animée pendant plus de 10 ans. Et moi je passais 2-3 fois par an sur Allô la planète. Et pendant mon voyage, Eric Lange est venu me voir pour une interview. Et je proposais l'idée de créer cette radio. Et ça a pris forme au mois d'août. Et donc on s'est lancé un peu tous les deux ensemble dans cette aventure. L'idée, c'est de donner la parole aux voyageurs, de leur permettre de diffuser leur podcast ou de créer une émission sur la thématique du voyage.
D'ailleurs, vous me diffusez, et merci beaucoup.
Bah avec plaisir, d'autant que c'est un très bon podcast et qui va très bien dans la grille de programme. Il y a pour l'instant 6 ou 7 podcasteurs qui diffusent sur la radio, et il y en aura d'autres petit à petit. Ça commence à faire boule de neige.
Tu m'avais dit que vous avez lancé un crowdfunding également.
Oui, on a lancé un financement participatif début mai. Pour financer 2 ans d'Allô la planète, financer aussi le matériel, micro, table, ordi, les jingles, les visuels, et puis tout ce qui est serveur, tout ce qui est diffuseur de radio, la SACEM, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour créer une web radio.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc c'est à toi. Est-ce que tu as un mot à rajouter, une anecdote à partager, un proverbe? C'est à toi.
Tout le long du voyage, ce qui était marquant, c'est de voir à tel point on suscitait chez les gens cette... En fait, avec Céline, on avait tout quitté, on avait tout vendu, on vivait sur nos économies, on était libre, et on avait fait le choix de changer de vie, de sortir de notre zone de confort pour vivre un rêve. Je crois que c'est ce qui marquait les gens. Et que beaucoup, pendant ou après notre voyage, se sont dit « Ah oui, mais moi aussi, j'aimerais passer le pas, et j'en ai marre de courir, j'en ai marre de cette vie qui ne me convient pas, où je trouve pas de plaisir, où finalement je suis dans mes habitudes, mais c'est pas ce pourquoi je suis là. » Et on a fait bouger les lignes assez souvent. Et j'avais rencontré un couple d'Italiens, qui s'est installé à la frontière suisse, enfin pas très loin de la Suisse, pour pouvoir y travailler et gagner beaucoup d'argent. Je suis resté une soirée chez eux, on a discuté, moi je parlais déjà de mon tour de France et de comment je voyais la vie. Et donc quand on est repassé avec Céline, je leur ai dit alors, vous en êtes où? Et lui s'est mis presque à pleurer en me disant mais j'ai quitté mon boulot en Suisse, j'ai trouvé un petit boulot en France, je vis avec beaucoup moins d'argent, mais déjà je vois mon fils, que je voyais pas beaucoup du fait des allers-retours quand il fait 2 heures de transport tous les jours. Et j'avais la passion de la musique, j'avais envie de créer des événements, et c'est ce que je fais aujourd'hui, et c'est génial. En fait, mon passage l'avait fait un peu cogiter, et il a changé de vie. Et c'est magique, de se dire, bravo quoi, hein, voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram, bourlinguer.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. C'est pour un...